Mes amis fidèles de l'oratoire, je suis très heureux d'être encore ce matin avec vous. C'est vrai que c'est un philosophe, simplement, qui va tenter de rendre, d'interpréter la parole avec son métier de philosophe et aussi avec ses questions. La question qui me ronge depuis des mois, depuis des années maintenant, autour de l'évolution de nos sociétés, me semble-t-il, touche souvent à la question de la fidélité et à la question de l'alliance. Et bien sûr, c'est un thème biblique permanent, on le retrouve partout sous mille formes. J'ai donc choisi quelques fragments qui me serviront de point d'appui pour la méditation que je vais vous présenter. Je lirai d'abord au livre de la Genèse, dans les livres 8, le chapitre 8, je veux dire le verset 11. Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. J'établis mon alliance avec vous. Nulle chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Puis, dans le livre des Psaumes, chapitre 12, verset 2, le psaume 12, « Sauve, Yahvé, car il ne reste qu'une poignée de ceux qui vivent de la grâce, car ils disparaissent ceux qui vivent de fidélité d'entre les fils d'Adam. » Puis dans l'évangile de Jean, Jean 1, 11, 12, « Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli. » Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et enfin, toujours dans l'évangile de Jean, Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Nous chanterons dans le psautier français, le psaume 36, « Ô Seigneur, ta fidélité », les trois strophes. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages, comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Ô, donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Mes amis, qui dira l'interminable impact dans nos vies et dans nos sociétés de l'idée d'alliance, de nouvelle alliance, de pacte ? Elle dit, cette idée, elle dit le recommencement, la reprise, la refondation, la réforme, oui, la réforme de nos vies individuelles et collectives, personnelles, communautaires. Et n'est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, de retrouver ensemble nos pactes fondateurs ? Mais qu'est-ce qui nous contraint ainsi à reprendre à nouveau frais le pacte de notre vivre ensemble, de notre parler ensemble, de notre écouter ensemble, de notre agir ensemble, de notre sentir ensemble, de notre habiter ensemble ? Ce peut être parce que les pactes du passé, les vieilles tables de la loi et de l'Évangile même, les vieilles tables de valeurs, comme aurait dit Nietzsche, nous sont devenues parfois comme des dettes absurdes, des promesses difficiles à porter, à réinterpréter, à rapporter à nos petites vies actuelles. Et c'est bien le cas. Une grande partie de nos contemporains n'a plus la force de porter ce poids du passé, ce poids même de promesses, d'assumer l'héritage de siècles de la vieille Europe. Ce peut être aussi parce que l'arrivée en masse de trop nombreux nouveaux venus nous oblige à élargir le pacte, à le repenser avec eux. Et là aussi, c'est bien le cas. Que ce soit pour la vieille et chère laïcité française, ou que ce soit pour notre chère et vieille Église, il est bon parfois de reprendre les termes du contrat, de les rénover, de les répéter simplement, de les rouvrir ensemble pour vérifier si c'est bien là encore ce que nous voulons. Cette idée de nouvelle alliance évoque donc, entre autres, le dénuement des nouveaux venus, de ces migrants qui viennent comme de nulle part, comme s'il avait fallu tout perdre pour débarquer dans un monde nouveau. Et ces arrivages prennent une densité terrible aujourd'hui avec les rescapés des catastrophes naturelles ou sociétales. Ne sommes-nous pas massivement, à l'époque, des populations déplacées ? Partout et de plus en plus, nous avons affaire à des rescapés. Ce rescapé, le déluge de la mondialisation et de la crise, la tempête de la vie et de l'histoire, l'a arraché à son enfance et l'a jeté sur le rivage d'un autre monde. Est-ce une île ? Est-ce un autre continent ? Est-ce la même ville ou la même vie vue soudain sous un tout autre jour ? Deviendra-t-il un pirate ? Jettera-t-il les plans d'une utopie ? S'effacera-t-il avec bonheur dans la langue de sa terre d'accueil ? Il ne sait rien encore de ce qu'il attend. À tâtons, il se relève, il ne reconnaît plus rien. Même les vieilles choses familières n'ont pas la même couleur, il ne se reconnaît plus. Et pourtant, il faudra bien se réinventer quand même un habitat qui lui fasse de quoi vivre et qui redispose les traces, les emplacements invisibles de son habitat antérieur. Mais tout est plus compliqué. Il n'y a pas que les déplacements catastrophiques et en masse vers des camps de réfugiés. Il y a aussi le déplacement furtif mais généralisé de notre vie ultramoderne, qui fait de chacun de nous sans cesse une personne déplacée, jamais tout à fait où elle est, et qui défait peu à peu nos attachements à tous, qui ruine nos fidélités. Car il est là aussi notre problème, l'évanouissement des fidélités. Aujourd'hui, il faut aller vite, savoir choisir les connexions les plus lointaines, les liens les plus efficaces, les plus précieux, et laisser tomber les autres. Et nous voici tous détachés, soi-disant émancipés, mais solitaires, vides de toute fidélité. Nous sommes ici au cœur de notre problème, l'évanouissement de la fidélité. Écoutez le psaume 12. Il n'y a plus qu'une poignée de ce genre d'hommes fidèles, de ceux qui acceptent de vivre en prenant avec gratitude ce qu'ils ont reçu et en donnant à leur tour. Le psaume le dit, ils disparaissent, ceux de la confiance. Comme le remarquait François Smith, ma collègue de la faculté, dans son commentaire paru dans le journal Réforme la semaine dernière, dans l'hébreu « fassou emunim », on entend ce scandale, cet évanouissement sifflant de la parole qui naguère était tendue par la promesse de la fidélité de Dieu. Et mettre la racine « amen » est exactement le mot qui dit justement la fidélité, la corde tendue, ce qui fait la solidarité dynamique de la caravane, par exemple. Et on touche ici à la logique de base de l'alliance royale, si bien exprimée en Ésaïe 7, verset 9, « Si vous ne vous tenez pas, vous ne serez pas tenu. » Il faut tenir la fidélité. Et c'est cela, l'alliance, le pacte. Hein, on se tient. Je te tiens, tu me tiens. Se tenir mutuellement. Il faut être deux à tenir. On se tient mutuellement. Donc tout est plus compliqué. Et le malheur du déplacement général, de la tempête, est universel. Et il défait toutes les solidarités. Certes donc, il est question d'exil, de dépaysement, d'arrachement, mais ce dépaysement est général. Il faut dire aussi le dépaysement chez soi de ceux qui étaient là et qui ont vu leur quartier submergé par des inconnus, par des comportements, des langages qu'ils ne comprennent pas. Et ceux qui sont partis, ils ont au moins un pays perdu, dont ils ne sont pas certains qu'ils le reverront un jour, mais dont ils peuvent rêver. Mais ceux qui sont restés chez eux et qui ne reconnaissent plus rien, ne savent plus où se mettre, où aller, ils ne rêvent que du passé. Vous voyez que donc, quand je dis cela, je mélange tout. Je désigne aussi bien le superbe Valois, cette vieille île de France, qui fut l'un des cœurs battants de notre pays, et qui, bien plus que la Corse, que la Bretagne ou que l'Ardèche, est écrasée par les banlieues de notre métropole. Mais je désigne aussi bien les faubourgs de Jérusalem, écrasés par les bulldozers des nouveaux colons. Où que nous allions, c'est en fait un peu partout pareil. Et tout se complique encore parce que les nouveaux venus ne sont pas seulement des étrangers qui débarquent un par un chaque jour dans nos ports et nos aéroports. Ce sont aussi tout simplement les nouveaux-nés qui viennent au monde et qui, comme les étrangers, demandent à être accueillis, hébergés, instruits avant qu'à leur tour, nous attendions d'eux de donner à leur tour, de montrer tout ce dont ils sont capables. Mais les nouveaux-nés, eux aussi, quand ils grandissent sans gratitude, sans responsabilité, comme si on leur devait tout, sont souvent eux-mêmes des barbares, qui se croient partout chez eux et qui ne respectent rien. Est-ce donc cela la nouvelle alliance? Le droit de jeter aux oubliettes tout ce qui est ancien? Le droit de donner un coup de bulldozer et de tout recommencer? Au départ, pourtant, l'idée était superbe. On nous avait dit « Tu quitteras père et mère, tu quitteras ton pays pour celui que je te montrerai. » On avait repris le geste de l'Exode, on avait repris le geste de Calvin, on avait déplié méthodiquement le droit de partir. Car la réforme, pour les protestants français notamment, a commencé par un exode et persévéré dans l'exil, dans le déplacement ailleurs, par le recommencement dans des colonies neuves qui osaient repartir de rien, de presque rien, d'un livre qui racontait leur histoire et les appelait à se lever. Ainsi, on avait cru à la possibilité toujours d'aller ailleurs, de tout recommencer sur d'autres plages du monde. Il s'agissait de sortir de la servitude, de sortir de la minorité pour accéder enfin à la liberté adulte. On avait compris qu'il n'y avait pas de nouvelle alliance sans rupture. On a vu que le mot hébreu pour dire la fidélité était la corde tendue. Mais pour dire que l'on contracte une alliance, curieusement, c'est le mot qui dit couper, trancher. Un peu comme on tranche un ruban inaugural, on tranche une alliance. Il n'y a pas de lien libre et véritable sans possibilité de se délier, de trancher, des deux côtés. Cette idée libératrice, cette idée d'un exode libérateur, cette idée qu'il faut larguer les amarres et se délier, comme Robinson Crusoe quitte sa famille, pour vraiment recommencer, pour vraiment commencer, est au cœur de la modernité protestante. C'est ce qui fait que les églises protestantes ressemblent davantage à l'archipel des colonies grecques qu'à la continuité continentale et apostolique de la fondation romaine. Mais n'est-ce pas d'ailleurs un caractère central de la foi chrétienne que la possibilité d'abjurer, la possibilité de partir? Et l'histoire entière de l'Occident est marquée par le déploiement de cette possibilité qui était inscrite sur le programme de départ, le droit de rompre, l'autorisation proprement théologique de se délier d'un vœu, d'une promesse ou d'une menace qu'on ne veut plus tenir. C'est là pour moi une des formes essentielles du pardon et peut-être ce qui donne à toute promesse sa véritable force. Abjurer, me direz-vous, mais c'est trahir. Et vous voulez nous parler de fidélité et d'alliance? Justement, les apôtres n'ont-ils pas tous été des traîtres? N'y a-t-il pas un point à partir duquel la fidélité comprend la trahison si elle veut être une fidélité vive? En tout cas, et plutôt que de passer l'abjuration par pertes et profits de la mauvaise conscience, nous devons faire ensemble l'éloge du droit de sortir, sans lequel le droit d'entrer perd son sens de libre don de soi. Et nous devons comprendre que l'invention ecclésiologique de ce droit de partir au moment de la réforme a été à l'origine d'une prodigieuse libération et qu'elle a obligé à inventer non seulement des formes d'église, mais aussi des formes de conjugalité, des formes politiques, des formes d'État, absolument inédites, des formes de libre alliance. Toute alliance véritable n'est-elle pas une nouvelle alliance, une alliance renouée? Tout mariage véritable n'est-il pas un remariage? Après tout, pour pouvoir se marier, il a fallu quitter son père et sa mère. Il a fallu rompre, il a fallu partir. Comment se lier si on ne s'est jamais délié? Comment se lier? Et ce que je viens de dire de l'Église et de l'abjuration, ce que je viens de dire du mariage et du divorce, n'est-ce pas encore le cœur de l'idée démocratique de pacte? Là encore, c'était la belle idée de l'immense poète puritain et flamboyant du paradis perdu John Milton, qui nous avait ouvert l'espace d'une épopée océanique, et plus tard encore celle d'Emerson, le philosophe américain, qui affirmait la possibilité, pratiquée par Thoreau, de nous retirer de notre cabane, de faire sécession avec une société injuste et esclavagiste, et de quoi recommencer autrement. L'idée était donc superbe. Mais il nous faut maintenant le reconnaître, les effets ont souvent été néfastes, et peu à peu, des questions se sont levées. Nous avons d'abord découvert que l'alliance ne se faisait pas sur une tabula rasa, comme si nos colonies s'étaient implantées dans un monde vierge. Il nous faut donc repenser l'idée de colonie, puisqu'au sens écologique, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais que des colonies qui cohabitent, se succèdent, parfois par la violence, pas toujours, ou qui fusionnent, plus souvent par mariage, dans un interminable enveloppement mutuel. Tout peuplement est une colonie. Et aucune colonie n'est autochtone, radicalement, absolument. Il y avait toujours déjà des habitants antérieurs. Les uns ou les autres, il faudra donc bien se pousser un peu pour faire place à nos cohabitants. Ensuite, nous avons découvert que le monde, que notre monde, était désormais fini. Ainsi s'effondre le rêve de croire que l'on peut toujours aller ailleurs. Je veux dire, par exemple, polluer un golfe, une rivière, un paysage, et aller recommencer ailleurs sur une plage vierge. Nous ne pouvons plus partir en vacances de plus en plus loin, nous évader dans un déplacement perpétuel. Il nous faudra bien revenir à nous. À nous, je dirais, à ce qui est à portée de nos mains, à portée de nos pieds. Nous n'avons pas de monde de rechange. Et puis, nous avons aussi découvert que le sujet nouveau, fut-il born again, né à nouveau, ne pouvait se construire sur le vide, sans fabriquer des petits individus amorphes, capables de tout oublier, de tout apprendre, de se délester de tout ce qui leur pèse et de prendre n'importe quelle forme. Que c'était cela même qui avait fait le lit des totalitarismes, toujours prêts à revenir demain plus puissants que jamais. Le rêve du nouvel homme a justifié toutes les répressions, tous les lavages de cerveau. On peut certes comprendre que pour survivre, le rescapé ait besoin de se délester, de jeter de lui-même tout ce qu'il alourdit. C'est un geste vital. Oui, c'est un geste de salut. Mais cela peut devenir une addiction. Imaginez quelqu'un qui serait born again 28 fois. Il y a un moment où il faut chercher non à répéter l'événement, mais à vivre avec, tout simplement, à l'interpréter dans nos vies de tous les jours. Et pour conclure notre déception, notre hantise était l'esclavage, le servage, la servitude, mais aussi la minorité, l'état de mineur, d'enfant, la mise en tutelle, l'infantilisation. Nous voulions l'émancipation. Mais l'émancipation suppose de défaire les attachements. Et ce que nous avons découvert, au fond, c'est qu'en nous dégageant des servitudes, nous avions inventé un malheur nouveau, l'exclusion. Et qu'il nous fallait non seulement penser la possibilité de partir, mais réapprendre la fidélité, les fidélités, la reconnaissance de nos attachements, le libre attachement. Oui, au fond, nous avions oublié le second terme. Il n'y a pas de rupture significative si elle n'est pas destinée à refaire une alliance nouvelle, qui fasse place ensemble à ceux qui sont là, nouveaux venus ou pas, déracinés ou pas, exilés ou pas. Et oui, ce que la crise réveille aujourd'hui, c'est tout simplement l'importance de la fidélité, des solidarités conjugales, familiales, amicales, communautaires, sociétales, de toutes sortes. Nous n'existons que par un prodigieux endettement mutuel. Nous avons découvert que le problème n'était pas tant d'arriver à nouer des liens que de tenir nos engagements, nos attachements, en amour comme en amitié, en église comme en politique. Comment rester ensemble alors qu'on pourrait rompre et partir ? Face à ces nouveaux défis, dans quelle direction chercher ? Il s'agira d'abord, je crois, de repenser notre théologie de l'alliance. La surprise est qu'il n'y a pas de nouvelle alliance qui ne remanie d'anciennes alliances toujours déjà là, n'en propose une réinterprétation, comme si les ruptures mêmes étaient comprises dans une fidélité plus vive, plus vaste. Cela, Calvin l'avait très bien vu, qui ne voyait la nouvelle alliance de l'Évangile que comme l'élargissement, la radicalisation, mais toujours la continuité de l'ancienne, des anciennes alliances. Pour le dire autrement encore, certes, il y a alliance là où il y avait conflit, dispute, et même différend. Mais si chacune de ces alliances surmonte un conflit, un différend qui aurait pu être mortel, il ne faut pas que telle ou telle alliance occulte toutes les autres. Comme s'il n'y avait jamais eu à la face du monde qu'un seul conflit, qu'un seul différend, qui prétendrait faire taire tous les autres par son caractère éminent ou incomparable. Ou pour le dire encore autrement, c'est certainement parce que j'ai pu rompre avec elle que je peux réouvrir toutes les alliances enchevêtrées dont j'hérite. Mais inversement, je ne peux contester, menacer de résilier mon consentement à mon Église, à ma société, me retirer dans ma cabane que si plus profondément je m'associe avec elle, avec tout ce qui est là, avec ceux qui sont là. Je consens au fait d'être en société, même si je proteste contre la société telle qu'elle va. La rupture de l'alliance, c'est le retrait du monde. Mais comment nous retirer définitivement du monde ? Nous n'avons rien d'autre. Et nous découvrons que la rupture n'a pas supprimé notre vieux monde, qu'elle ne l'a pas remplacé par un nouveau monde, qu'elle l'a simplement rendu plus vulnérable, plus précieux. Ce qu'il nous faut déployer, enfin, c'est notre faculté d'habiter, de nous installer durablement dans notre bout d'espace pour y cohabiter avec d'autres, de nous pousser, oui, pour faire de la place aux autres, ce qui suppose une redistribution équitable de l'espace habitable. En effet, le monde nous a d'abord été donné à habiter, dans les limites d'une cohabitation durable, qui doit se réinventer de proche en proche. Je ne voudrais pas du tout renier pour autant l'importance de la capacité à partir, à quitter son pays, son église, son partir, si on y est opprimé par exemple, ou même simplement si on s'ennuie, la capacité à s'exiler, à faire sécession. C'est pour moi le noyau de l'invention démocratique. Je le redis, une société libre est une société où l'on peut se retirer librement, d'où l'on peut se retirer librement. Et je ne parle pas seulement ici des États, mais de toutes les associations, communautés, et jusqu'au couple. Il faut pouvoir se délier pour pouvoir se lier. Mais dans la mesure où il n'y a plus d'ailleurs où l'on puisse partir, il nous faut apprendre à partir sur place, à faire sécession et dissidence, mais pour recommencer là où l'on est, la capacité à défaire et refaire lien avec ceux qui sont déjà là. Cela suppose aussi la faculté de se dépayser sur place. Se dépayser sur place. Mais que faisons-nous tous les dimanches matins quand nous lisons nos vieux textes, sinon nous dépayser dans nos propres origines, découvrir que nos origines sont encore ailleurs, qu'elles sont mêlées, que nous provenons de 1000 sources, et de découvrir que nos origines sont aussi origines d'autres que de nous. Plus profondément, peut-être encore, nous avons découvert que nous avions oublié la génération, les générations, comme si tout pouvait commencer en même temps, d'un coup. Nous avions oublié l'irréductible décalage entre les anciennes et les nouvelles alliances, entre les anciens et les nouveaux venus. Je veux dire l'asymétrique mutualité de l'endettement et de l'emplacement, de la reconnaissance et du faire place, aux uns de reconnaître et aux autres de céder la place, de s'effacer pour laisser les autres grandir. Comment faire pour que le poids et la mémoire des anciennes alliances n'écrasent pas la possibilité de refaire alliance avec les nouveaux venus, à tel point que ceux-ci préfèrent ne rien devoir à personne, laisser tomber tout héritage. Mais comment faire aussi pour que le surgissement des nouveaux pactes ne se fasse en balayant tout ce qui était déjà là, comme un jardin précieux, transmis et réinterprété de génération en génération, et soudain passé au bulldozer du fait accompli. Migrants ou nouveau-nés, le problème est ici le même. Comment faire pour que les promesses de vie ne soient pas étouffées par la dette envers les anciens, mais aussi pour que la reconnaissance de ce qui nous précède nous autorise, au contraire, à tout réaménager, à tout réinterpréter librement. Puis-je terminer sur le ton du moraliste, car je ne suis rien d'autre qu'un modeste philosophe moraliste. Ce qu'il nous faut, dirais-je, c'est apprendre à nous frotter. Une alliance, un pacte, une prise mutuelle ne tient que par le frottement. Si tout est lisse, si tout glisse, tous les liens se défont. Ce que les exils massifs et involontaires des temps contemporains nous enseignent, quand plus personne ne se sent nulle part chez soi, c'est que le monde nous est donné à habiter, non pas chacun retiré dans son coin, mais dans les tirages et dans les frottements de la cohabitation. Le monde n'est que par cette cohabitation. C'est ça le pacte, c'est ça l'alliance. C'est ça le signe de l'alliance, c'est la cohabitation. Le monde se découvre en regardant à nos pieds comme notre condition la plus commune, la plus ordinaire, celle d'être ensemble, de nous tenir mutuellement. C'est ce monde le plus dense en cohabitant qui a été aimé par Dieu. C'est ce monde qui peut recevoir la lumière. Nul ne sera reçu s'il ne reçoit, et nul ne recevra s'il n'accepte d'être reçu. Amen.